Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes toujours à ce traité sur le Saint-Sacrement, la Sainte Eucharistie, dans la Somme théologique de Saint Thomas, donc un traité qui couvre les questions 73 jusqu'à 83, la tertia pars. Nous en sommes à la question 78 sur le polycopier qui est sur le site internet d'Anne-Marie. C'est à la page, plutôt la page 165. Après avoir étudié déjà la distinction entre la substance et les accidents, nous allons maintenant étudier la forme. Je vous rappelle que pour qu'un sacrement soit valide, il faut trois choses. Il faut la forme, c'est-à-dire les paroles utilisées. Il faut la matière, la chose utilisée. Par exemple, au sacrement de la Sainte Eucharistie, le pain et le vin. Et il faut également un ministre avec intention de faire ce que veut faire l'Église. Alors, voyons ce qu'a dit Saint Thomas sur ce sujet de la forme du sacrement. C'est une partie un peu plus facile, donc je vais aller un peu plus vite. Question 78, la forme du sacrement. Donc, il y a six articles que nous allons voir. Première question, premier article de la question 78 de la tertia pars. La forme de ce sacrement est-elle bien ? Ceci est mon corps et ceci le calice de mon sang. Donc, il cite Saint Ambroise pour répondre à l'article. La consécration se fait par les mots et les paroles du Seigneur Jésus-Christ, car tout ce qu'on dit d'autre rend gloire à Dieu, sert à prier pour le peuple, pour les rois, pour tous. Lorsqu'on accomplit le sacrement, le prêtre n'emploie plus ses propres paroles, il emploie celles du Christ. C'est donc la parole du Christ qui accomplit ce sacrement. Rappelez-vous la doctrine fondamentale au niveau du sacerdoce. Le prêtre est un alter Christus, un autre Christ. Donc il agit au nom du Christ. C'est pour cela que le prêtre dit, au moment de prononcer les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il est évident qu'il ne s'agit pas ici du corps et du sang du prêtre. Il s'agit aussi du corps et du sang du Christ lui-même. À tel point, je vous l'ai déjà souvent expliqué, que si un prêtre, par fausse humilité, célébrait en disant, au lieu de dire « ceci est mon corps » pour la première consécration, disait « ceci est le corps du Christ », eh bien, la messe serait invalide. La messe serait invalide tout simplement parce qu'à ce moment-là, le prêtre n'aurait pas l'intention de faire ce que veut faire l'Église. L'Église veut que le prêtre agisse au nom du Christ. De même, si pour la deuxième consécration, il disait « ceci est le sang du Christ », la messe serait invalide. De même si pour l'absolution sacerdotale, le prêtre disait que le Christ te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'absolution serait invalide. Il faut dire « Je t'absous de tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il est évident que ce n'est pas le prêtre en tant qu'homme qui a le pouvoir d'absoudre, mais le prêtre en tant qu'agissant, grâce au caractère sacerdotal qui est le sien, agissant au nom du Christ. Donc, dans ce sacrement, la consécration de la matière consiste en une conversion miraculeuse de la substance que Dieu seul peut accomplir, ce qu'on appelle la transsubstantiation, on l'a déjà expliqué. C'est pourquoi le ministre, en accomplissant ce sacrement, n'a pas d'autre action que d'émettre les paroles. Il agit au nom du Christ. « Tandis, dit saint Thomas, que la forme de ce sacrement est émise à la place du Christ lui-même qui parle, on donne ainsi à entendre que dans l'accomplissement de ce sacrement, le ministre ne fait rien d'autre que de proférer les paroles du Christ, encore une fois, parce qu'il prend sa place. C'est un petit peu une comparaison. Quand un prêtre donne ce qu'on appelle la bénédiction papale, par exemple à la fin des exercices de saint Ignace, dans 5 jours, l'Église autorise le prédicateur à donner une indulgence qu'on appelle indulgence papale, à laquelle est attachée une indulgence plénière. Bon, ceci est faisable pour toute retraite fermée d'au moins 5 jours. Donc, lorsque le prêtre donne l'indulgence papale, la bénédiction, parce qu'on appelle une bénédiction papale, il est évident qu'il se il n'agit pas comme s'il était le pape lui-même, ni que simple prêtre, mais il agit au nom du pape. Là, c'est un petit peu la même chose. Alors, cette formule de la consécration du pain, ceci est mon corps, est-elle appropriée? Réponse est évidemment positive. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même a employé cette forme pour consacrer, comme on le voit en Saint Matthieu, chapitre 26. Cette forme de consécration du pain est donc parfaitement appropriée. On a vu en effet que cette consécration consiste en la conversion de la substance du pain au corps du Christ. Et c'est ce qu'exprime la phrase « Ceci est mon corps », le corps du Christ, puisque le prêtre agit au nom de ce même Christ. Même question se pose pour la consécration du vin. « Ceci est le calice de mon sang ». Est-ce que cette formule est appropriée? C'est la même réponse qu'évidemment va donner saint Thomas d'Aquin. Toutes ces paroles appartiennent à la substance de la forme, mais les premières paroles, donc les paroles complètes, doivent être dites pour la consécration du vin, le changement du vin en la substance du sang du Christ. Mais les premières paroles, ceci est le calice de mon sang, signifient précisément la conversion du pain au sang, de la manière qu'on a dite à propos de la consécration du pain. Et les paroles qui suivent désignent la vertu du sang répandu dans la passion, vertu qui opère dans ce sacrement. Y a-t-il, se pose ensuite la question, Saint Thomas d'Aquin, y a-t-il dans ces paroles, des formes sacramentelles, une vertu créée qui produit la consécration? Voilà sa réponse. Il cite encore saint Ambroise, « S'il y a une telle vertu dans la parole du Seigneur Jésus pour ce qui n'existait pas, que ce qui n'existait pas commence à exister, combien plus efficace est-elle pour faire que ce qui était existe et soit changé en autre chose? Ainsi, ce qui était du pain avant la consécration est désormais le corps du Christ après la consécration, parce que la parole du Christ change la créature. » Dans les paroles constituant la forme de ce sacrement, il y a donc une vertu créée pour produire la conversion de ce sacrement, vertu instrumentale cependant, comme dans les autres sacrements, car puisque ces paroles sont prononcées à la place du Christ, elles reçoivent par son ordre une vertu instrumentale dérivée de lui, de même que toutes les actions et paroles possèdent instrumentalement une vertu porteuse du salut. Et saint Thomas conclut en disant « Ces paroles sont proférées au nom du Christ qui dit de lui-même « Je suis la vérité, la voie et la vérité et la vie. » Avançons. La forme consécratoire du pain produit-elle son effet avant que soit achevée la forme consécratoire du vin? C'est-à-dire, est-ce que chaque mot de la formule de consécration du vin est-elle nécessaire? Alors voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Aussitôt dites les paroles de la consécration du pain, on offre l'hostie consacrée à l'adoration des fidèles. On ne le ferait pas s'il n'y avait pas là le corps du Christ, car ce serait l'idolâtrie. Donc, les paroles de la consécration du pain obtiennent leur effet avant que soient prononcées les paroles de la consécration du vin. Donc, c'est la question que se pose saint Thomas. Donc, article 6, la forme consécratoire du pain produit-elle son effet avant que soit achevée la forme consécratoire du vin? Ça veut dire que, est-ce qu'il faut qu'il y ait les deux consécrations pour qu'il y ait présence réelle? Réponse, dès que les premières paroles sont prononcées, ceci est mon corps, il y a déjà présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Mais la deuxième, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, la deuxième consécration, la consécration du vin, donc le changement du vin en la substance du sang du Christ, est nécessaire avec la consommation de la victime pour qu'il y ait vraiment sacrifice. Il faut donc une séparation sacramentelle entre le corps et le sang du Christ. Voilà ce que dit saint Thomas. Après la consécration du vin, il y a le corps du Christ en vertu du sacrement et le sang en vertu de la concomitance réelle. Mais ensuite, après la consécration du vin, il y a là inversement le sang du Christ en vertu du sacrement et le corps du Christ en vertu de sa concomitance réelle. Si bien que le Christ tout entier est présent sous chacun des deux espèces. Se veut être encore plus complet. On reprend donc ce que saint Thomas a déjà expliqué. On voit très bien que saint Thomas constamment réexplique les mêmes choses. Pour être sûr que ça rentre bien dans les esprits. Donc, après la première consécration, par la force du sacrement, il y a présence du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, j'ai déjà expliqué, puisque au ciel, le corps du Christ est glorieux, il ne peut plus y avoir de séparation entre son corps et son sang. Donc, par concomitance réelle, après la première consécration, il y a, en plus, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Après la deuxième consécration, changement donc du vin au sang du Christ, par force du sacrement, il y a le sang du Christ, et par concomitance réelle, le corps, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque vous communiez, vous recevez réellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout y est, puisque vous recevez l'intégralité de la nature divine. Alors, voyons la question 79, les effets donc de ce sacrement. C'est évident que c'est un sacrement beaucoup plus important encore que les autres, parce que c'est un sacrement qui ne se contente pas de donner la grâce comme les autres sacrements, mais qui donne l'auteur même de la grâce. Cependant, la grâce est aussi donnée. Donc, saint Thomas commence à poser la question, est-ce que ce sacrement confère la grâce ? La réponse est oui. Il cite saint Jean, « Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde ». Mais la vie spirituelle est donnée par la grâce, donc la grâce est conférée par ce sacrement. Alors, l'effet de ce sacrement est considéré de différentes manières. Saint Thomas d'Aquin va en parler de quatre effets, si vous voulez, de ce sacrement au niveau de la grâce. Donc voilà ce qu'il dit. L'effet de ce sacrement doit être considéré premièrement et à titre de principe à partir de ce qui est contenu dans ce sacrement et qui est le Christ lui-même. Bon. Il cite saint Cyril, le Verbe de Dieu vivifiant, s'unissant à la chair qui lui est propre, la rend vivifiante à son tour. Il convenait donc qu'il s'unisse d'une certaine façon à nos corps par sa chair sacrée et son sang précieux que nous recevons comme une bénédiction vivifiante dans le pain et le vin. Donc on reçoit vraiment le Christ. Deuxièmement, on considère l'effet de ce sacrement à partir de ce qui est représenté par ce sacrement. Et c'est, comme on l'a vu, la passion du Christ. Donc ce sacrement opère dans l'homme l'effet que la passion du Christ a opéré dans le monde. C'est-à-dire, quand on assiste à la Sainte Messe, il faudrait assister à la Sainte Messe avec les mêmes yeux avec lesquels la Sainte Vierge Marie a assisté à la mort du Christ au pied de la croix. Et il va citer également saint Jean Chrysostome. Aussitôt, il jaillit du sang et de l'eau, il cite saint Jean, chapitre 19, puisque c'est de là, dit saint Jean Chrysostome, que les saints mystères tirent leur principe. Lorsque vous vous approchez du calice redoutable, c'est comme si vous vous approchiez du côté du Christ pour y boire. Ceci est mon sang qui sera répandu pour vous en rémission des péchés. Une très belle phrase de ce grand docteur qui était saint Jean Chrysostome. Lorsque vous vous approchez de ce calice de la passion, calice de l'autel, c'est comme si vous approchiez du côté du Christ pour y boire, puisque c'est le renouvellement du sacrifice de la croix. Troisièmement, on considère l'effet de ce sacrement à partir du mode selon lequel ce sacrement nous est donné. Or, il nous est donné par mode de nourriture et de boisson. C'est ce que disent notre Seigneur aux apôtres, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Quatrièmement, on considère l'effet de ce sacrement à partir des espèces sous lesquelles ce sacrement nous est donné, les espèces du pain et de vin. Ici de saint Augustin, notre Seigneur a présenté son corps et son sang dans ces éléments qui, à partir d'une multitude, sont réduits à l'unité car l'un, le pain, est une seule masse de multiples grains, l'autre, Le vin est un seul liquide fait de multiples grappes. Au mystère de bonté, au signe d'unité, au lien de charité. Et conclusion de saint Thomas, puisque le Christ et sa passion sont cause de la grâce, et que la réflexion spirituelle et la charité ne peuvent exister sans la grâce, de tout ce qu'il convient de dire, il apparaît avec évidence que ce sacrement nous confère la grâce. Augmentation de la grâce sanctifiante, puisque la Sainte Eucharistie ne peut être reçue que par une âme qui est vivante, donc un état de grâce. Donc il y a déjà la grâce sanctifiante dans cette âme qui reçoit la Sainte Communion, mais la Sainte Communion va augmenter le degré, le niveau de la grâce, si vous voulez. Saint Thomas se pose ensuite la question de savoir si l'effet de ce sacrement est la gloire, l'obtention de la gloire céleste. Eh bien, voilà ce qu'il dit. Il va citer Saint Jean. La réponse est un peu, semble un peu étonnante. On pourrait dire, mais non, on n'est pas encore au ciel. Pourtant, il cite Saint Jean. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Mais la vie éternelle est la vie de gloire. Donc, l'effet de ce sacrement est donc l'obtention de la gloire. Voilà ce qu'explique saint Thomas. On peut considérer dans ce sacrement d'une part ce dont il tient son effet, c'est-à-dire le Christ en personne, qu'il contient, et sa passion qu'il représente. Et d'autre part, ce par quoi il produit son effet, c'est-à-dire l'usage de ce sacrement et les espèces sacramentelles. À ce double point de vue, il revient à ce sacrement de causer l'obtention de la vie éternelle. En effet, le Christ en personne, par sa passion, nous a ouvert l'accès de la vie éternelle. C'est incroyable ce qu'il dit, parce qu'il dit littéralement que lorsqu'on communie, notre âme devient un petit bout de paradis. C'est ça qu'il veut dire. Il cite saint Paul aux Hébreux, il est médiateur de la nouvelle alliance pour que par l'intermédiaire de sa mort, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel, l'éternel héritage promis. De même, la réflexion produite par la nourriture spirituelle et l'unité signifiée par les espèces du pain et du vin sont bien possédées présentement, mais de manière imparfaite, alors qu'elles seront possédées de manière parfaite dans l'état de gloire. Il est évident que la sainte Eucharistie que nous recevons va transformer notre âme, si vous voulez, un petit bout de paradis, mais de façon provisoire, pas de façon définitive, éternelle, comme pour ceux qui sont au ciel. Notre âme sera transformée en un bout de paradis pendant que les espèces du pain sont dans notre estomac. Lorsque les sucs gastriques ont digéré complètement la sainte hostie, il est évident que dans ce cas-là, la présence réelle disparaît, mais la grâce demeure. Recite de nouveau saint Augustin à partir de saint Jean, ma chair est vraiment une nourriture, et voilà ce que dit saint Augustin, puisque les hommes demandent à la nourriture et à la boisson de n'avoir plus faim ni soif, en vérité cela n'est accordé que par cette nourriture et cette boisson qui rendent ceux qui les consomment immortels et incorruptibles dans la société des saints où il y aura la paix et une unité complète et parfaite. C'est la comparaison dont parle saint Thomas des différents grains de blé qui sont moulus ensemble pour former une seule pâte, ou des grains de raisin qui sont pressés ensemble pour ne former qu'un seul vin. Alors, saint Thomas continue d'approfondir la chose en se posant la question de savoir si l'effet de ce sacrement est la rémission du péché mortel. C'est la question 79, article 3 de la tertia pars, troisième partie. Alors, il cite saint Paul, évidemment aux Corinthiens, « Celui qui mange et boit indignement le corps du Christ mange et boit son propre jugement. » Donc, celui qui mange et boit indignement, c'est celui qui est dans le crime ou qui se comporte sans respect pour le Saint-Sacrement. Et celui-là mange et boit son propre jugement, c'est-à-dire sa damnation. Donc, celui qui est dans le péché mortel, du fait qu'il reçoit ce sacrement, accumule sur lui-même les péchés plus qu'il n'obtient la rémission de son péché. Donc, quand vous allez communier malheureusement en état de péché mortel, vous rajoutez à vos malheurs un malheur encore plus grand, encore plus monumental, à savoir, vous prenez la responsabilité d'une communion sacrilège. La communion sacrilège, certainement, un des péchés les plus graves qui se puissent commettre. Quiconque donc a conscience d'un péché mortel possède en lui-même un obstacle à percevoir l'effet de ce sacrement parce qu'il n'est pas un sujet adapté à ce sacrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reçois la communion à la Sainte Eucharistie à l'état de péché mortel, est-ce que je reçois le bon Dieu? Oui! Puisque le prêtre vous donne une hostie consacrée. Donc ce n'est plus la substance du pain, c'est la substance du corps du Christ. Vous recevez le bon Dieu, mais est-ce que vous recevez les effets surnaturels de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ en votre âme? Non. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ ne donne pas la grâce à quelqu'un qui ferme la porte de son âme ostensiblement pour être sûr que la grâce ne puisse pas y rentrer. Donc il est évident que si je suis en état de péché mortel et que je communie, la porte de mon âme étant fermée à double tour, notre Seigneur Jésus-Christ vient, je dirais littéralement, matériellement dans notre âme, mais il ne pénètre pas dans mon âme avec sa grâce parce que j'ai fermé la porte pour l'empêcher de rentrer. Spirituellement, dans ce cas-là, il n'y a pas de vie, et ainsi ne doit pas prendre une nourriture spirituelle, ce qui n'appartient qu'à un vivant. Et un vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui est en état de grâce. D'autre part, parce qu'il ne peut pas s'unir au Christ, ce qui réalise ce sacrement, si longtemps qu'il est attaché au péché mortel. Un homme en état de péché mortel ne peut donc pas communier sans être coupable d'un péché épouvantable qu'on appelle une confession, une communion sacrilège. Donc attention à ça. Rappelez-vous la phrase de saint Paul. Celui qui mange et boit le corps et le sang de son Dieu sans discernement, boit et mange sa propre condamnation. Donc, on ne peut pas s'unir au Christ aussi longtemps que nous sommes attachés au péché mortel. Cependant, ce sacrement peut toutefois opérer la rémission du péché, même du péché mortel, de deux façons. D'abord, lorsqu'il n'est pas reçu effectivement, mais par vœu, c'est le cas de l'homme qui reçoit la justification première de son péché. Ensuite, lorsqu'il est reçu par un homme en état de péché mortel, mais qui n'a pas conscience de son péché, il n'est pas attaché. Peut-être en effet que tout d'abord il n'avait pas été suffisamment contrit, mais venant avec dévotion et respect, il obtiendra par ce sacrement la grâce de la charité qui rendra parfaite sa contrition, la rémission de ses péchés. De même que, c'est enseignement de saint Thomas, qu'une confession va transformer une contrition imparfaite en une contrition parfaite, de la même façon, la réception de la Sainte Communion, si je suis de bonne foi, c'est-à-dire que je suis un tel péché mortel mais je l'ignore, eh bien, cette communion peut effacer dans ces cas-là le péché mortel par une augmentation justement de la grâce et de la charité dans cette âme. Mais il est évident, encore une fois, qu'on n'est pas responsable de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, quand quelqu'un est en état de péché mortel et va communier, objectivement, il est en état de péché mortel. Bon. Mais dans certains cas, il l'ignore. Imaginez quelqu'un qui croit être en état de grâce, de bonne foi, il a fait un examen de conscience, je ne pense pas avoir de péché mortel sur ma conscience, je vais communier. Et en fait, il est en état de péché mortel. Est-ce qu'il y a une confession, une communion sacrilège dans ce cas-là? Réponse est non. Parce que pour qu'il y ait communion sacrilège, il faut savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire, je vais communier un tas de péchés mortels, je sais très bien que je suis un tas de péchés mortels, je sais très bien que je ne peux pas recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ à cause de mon état spirituel, et ça fait rien, je le fais quand même parce que je veux profaner autant que faire se peut dans mon âme la présence réelle. Avec les cas est parfaitement expliqué par saint Thomas. Alors, est-ce que la Sainte Eucharistie ne détruit pas le péché mortel, mais accidentellement, si cette personne est en état de péché mortel, vraiment sans le savoir, eh bien, le péché mortel, si un acte de contrition parfaite est licité dans cette âme par la grâce du bon Dieu, après la communion, cet acte de contrition parfaite va effacer les péchés mortels. N'oubliez pas que tout acte de contrition parfaite regrette ses péchés par pur amour du bon Dieu, efface tous les péchés mortels d'une âme. Cependant, si je suis en état de péché mortel, je ne peux pas dire je vais communier quand même, et puis je vais éliciter un acte de contrition parfaite. Et donc tous mes péchés seront effacés. Non, parce que vous savez très bien ce que vous faites, et dans ce cas-là, vous n'avez pas l'excuse de la bonne foi. C'est-à-dire que si vous communiez un tel péché mortel en toute connaissance de cause, vous commettez une communion sacrilège. Donc attention à faire un bon examen de conscience avant que de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ en son âme. Alors, au niveau des péchés véniels, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement de l'Église que ce sacrement de la Sainte Eucharistie détruit le péché véniel et préserve des péchés mortels. Donc tous les péchés véniels sautent par la réception de la Sainte Eucharistie. C'est comme un feu dévorant qui va purifier tout ce qu'on met dans le feu. Vous mettez une pièce d'acier qui est couverte de rouille dans le feu, eh bien le feu va préserver l'acier de la rouille et va directement nettoyer l'acier de toute la rouille. La rouille va disparaître dans les flammes et l'acier va retrouver sa noblesse et sa belle couleur. La réalité de ce sacrement, c'est la charité dont ce sacrement excite non seulement l'habitus, mais l'acte. Donc c'est par là que les péchés véniels sont effacés. Il est donc évident que les péchés véniels sont remis par la vertu de ce sacrement de la Sainte Eucharistie. C'est évident que s'il fallait être absolument sans péché véniel pour communier, on ne communierait jamais. Et donc le bon Dieu, dans sa miséricorde, efface tous les péchés véniels par la Sainte Communion. Alors saint Thomas va plus loin, après avoir s'est posé la question de savoir si le péché mortel est ôté par le sacrement de la Sainte Eucharistie, si le péché véniel est ôté par le sacrement de la Sainte Eucharistie. Troisième question, est-ce que la peine due au péché, c'est la peine du purgatoire, est remise par ce sacrement? Alors voilà ce que répond saint Thomas. Ce sacrement est tout ensemble sacrifice et sacrement. Mais il a raison du sacrifice, en tant qu'il est offert. Il a raison de sacrement en tant qu'il est mangé. Et c'est pourquoi il produit l'effet du sacrement en celui qui mange, tandis qu'il produit l'effet du sacrifice en celui qui offre ou en ceux pour qui il est offert. Donc saint Thomas explique. Le sacrement de la Sainte Eucharistie n'a pas été institué en vue de satisfaire, mais pour produire une nutrition spirituelle par union au Christ et à ses membres, de même que la nourriture s'unit à celui à qui il est nourri. Et parce que cette unité se fait par la charité, dont la ferveur nous obtient la rémission non seulement de la faute, mais encore de la peine, c'est-à-dire les peines du purgatoire, il s'ensuit que par voie de conséquence, grâce à une certaine concomitance qui accompagne l'effet principal, on obtient rémission de la peine, non sans doute de la peine entière, mais selon la mesure de sa dévotion, de sa ferveur. C'est-à-dire, si quelqu'un communie avec une grande ferveur spirituelle, un grand degré d'amour du bon Dieu, eh bien, il peut faire disparaître ainsi toutes les peines du purgatoire des péchés déjà pardonnés. Et n'oubliez pas ce que j'ai déjà expliqué, que en soi, le sacrement de la Sainte Eucharistie n'enlève pas les peines, le sacrement de la Sainte Eucharistie n'enlève pas forcément toutes les peines du purgatoire. Ce que dit saint Thomas, ça va dépendre du degré de charité que j'ai. Donc quelqu'un qui fait par exemple une bonne confession de toute sa vie passée, a élicité en son âme, avec la grâce du bon Dieu, un grand amour du bon Dieu, et s'il communie avec, après cela, en général, la communion, par exemple, une communion de retraite, après une bonne confession générale, en général, a pour conséquence directe d'effacer toutes les peines du purgatoire. Mais cet effacement des peines du purgatoire est proportionné au degré de charité. C'est-à-dire, si j'ai un très haut degré de charité, je peux effacer beaucoup plus de peines de purgatoire que si j'ai un degré de charité qui est relativement faible. En tant qu'il est sacrifice, l'Eucharistie a aussi une puissance satisfactoire, mais dans la satisfaction, considère davantage le sentiment de l'offrant que la qualité de l'oblation. Bien que cette oblation de l'Eucharistie, quant à sa quantité, suffise à satisfaire pour toute la peine, cependant, elle a valeur satisfactoire à l'égard de ceux pour qui elle est offerte, ou même à l'égard de ceux qui l'offrent, sur la quantité de leur dévotion, et non pour toute la peine. Article 6. Ce sacrement préserve-t-il des péchés futurs? Voilà la réponse de saint Thomas. Ce sacrement préserve de la vie spirituelle, de la mort spirituelle qui est le péché. Donc, le sacrement de la Sainte Eucharistie est comme un médicament, si vous voulez, une potion qu'on prend, qui va nous rendre plus forts pour lutter contre la maladie. Donc, si je communie un tas de grâce, je vais mettre autour de mon âme comme une armure qui va me protéger du péché. Le péché est comme la mort spirituelle de l'âme. On est donc préservé du péché futur à la manière dont le corps est préservé de la mort future. Ceci se fait de deux façons. D'abord, en ce que la nature de l'homme est fortifiée intérieurement contre les forces intérieures de destruction, c'est ainsi qu'on est préservé de la mort par la nourriture et les remèdes. Ensuite, parce qu'on est protégé contre les attaques extérieures, c'est ainsi qu'on est préservé par les armes dont on protège son corps. Notre sacrement, donc, de la Sainte Eucharistie, préserve du péché de ces deux façons. Car d'abord, du fait qu'il s'unit, qu'il unit au Christ par sa grâce, par la grâce, il fortifie la vie spirituelle de l'homme à la manière d'un aliment, à la manière d'un aliment spirituel, d'un aliment et d'un remède spirituel. Donc, la Sainte Eucharistie efface au moins une partie de la peine temporelle des péchés déjà pardonnés, donc une partie des peines du purgatoire. En tant que ce sacrement est un signe de la passion du Christ, par quoi les démons ont été vaincus, il repousse toute attaque des démons. Donc ça va donner une force surnaturelle, une force spirituelle pour repousser les attaques du démon et surtout les attaques des trois concupiscences. Saint Thomas explique un peu plus loin dans ce même article. L'homme, dans son état de pèlerin, il est voyageur ici-bas, est dans une condition telle que son libre arbitre peut s'incliner au bien ou au mal. Aussi, bien que ce sacrement, autant qu'il dépend de lui, ait la vertu de préserver du péché, il n'enlève pourtant pas à l'homme la possibilité de pécher. La charité, aussi autant qu'il dépend d'elle, préserve l'homme du péché, car l'amour du prochain fait pas le mal. Mais à cause de l'inconstance du libre arbitre, il arrive qu'on pêche après avoir eu la charité, de même après avoir reçu ce sacrement. Donc, c'est une préservation relative. C'est pas parce que j'ai communié un état de grâce que ça veut dire que j'aurai plus de tentation du tout. En fait, on voit souvent des gens qui communient, et après qui viennent me dire, vous savez, j'ai encore beaucoup de tentations. Mais évidemment, la nature est toujours là. La grâce ne détruit pas la nature. La nature pécamineuse, imprégnée par les conséquences du péché originel, est toujours là. Enfin, troisième raison, bien que ce sacrement ne soit pas directement ordonné à l'atténuation du foyer, de la concupiscence, il l'atténue, cependant en vertu d'une certaine conséquence en tant qu'il accroît la charité. Donc tout va dépendre du degré de charité qu'a cette personne au moment où elle communie. Alors, ce sacrement profite-t-il à d'autres personnes qu'à ceux qui le consomment ? Alors, saint Thomas répond en disant que ce sacrement n'est pas seulement un sacrement, mais est aussi un sacrifice. Un sacrifice qui est offert pour les vivants, pour les morts. Il n'est pas simplement offert pour la personne qui communie. Car en tant que, dans ce sacrement, la passion du Christ est rendue présente, par laquelle le Christ est offert à Dieu en victime, il a raison de sacrifice. Mais, en tant que, dans ce sacrement, la grâce est invisiblement donnée sous une apparence visible, il a raison de sacrement. C'est pas simplement un sacrement, c'est aussi un sacrifice offert pour les vivants, pour les morts. Ainsi donc, ce sacrement profite à ceux qui le consomment, et par mode de sacrement et par mode de sacrifice, car il est offert pour ceux qui le consomment. En effet, on dit dans le canon de la messe, quand nous recevrons en communion ici à l'autel le corps et le sang infiniment saints de votre Fils, puissions-nous être comblés des grâces et des bénédictions du ciel. Mais aux autres qui ne consomment pas, ils profitent par mode de sacrifice en tant qu'il est offert pour leur salut. C'est pour ça qu'à chaque messe, le prêtre offre la Sainte Messe pour une intention particulière pour laquelle il a reçu un honoraire. Chaque fois que je célèbre la messe, avant de célébrer la messe et quitter la sacristie, je vérifie sur mon carnet de messe pour quelle personne déterminée je dois offrir la Sainte Messe. Alors, saint Thomas, une magnifique phrase, il dit, dans la réponse à la deuxième objection, « La passion du Christ profite bien à tous en tant qu'elle est suffisante et pour la rémission de la faute, et pour l'obtention de la grâce et de la gloire, mais ne produit son effet qu'en ceux qui s'unissent à la passion du Christ par la foi et la charité. De même, ce sacrifice qui est le mémorial de la passion du Seigneur ne produit son effet qu'en ceux qui sont tenus à ce sacrement par la foi et la charité. Donc si je ne suis pas en état de grâce avant de communier, ma communion non seulement ne me sert de rien, mais je quitte le monde confessionnel avec un péché supplémentaire sur la conscience, un péché de communion sacrilège, qui est un des pires péchés qu'on puisse commettre. Alors, est-ce que le péché véniel empêche l'effet de ce sacrement ? Alors, Les péchés véniels n'empêchent pas totalement, mais partiellement, l'effet de ce sacrement. C'est comme, si vous voulez, des grains de poussière sur un vase. Le vase va toujours pouvoir remplir son objet, mais si le vase est sale, évidemment, on aura moins tendance à regarder le beau bouquet qui a été passé dans le vase en question. Donc, les péchés véniels n'empêchent pas totalement, mais seulement partiellement l'effet du sacrement. Donc, c'est pour ça qu'il faut se confesser dans la mesure du possible, au moins une fois par mois, voire même une fois par semaine selon les personnes, avant de communier, parce que le péché véniel est ôté par la confession. Et donc, à ce moment-là, les portes de mon âme sont bien plus ouvertes, bien plus, elles s'ouvrent plus facilement, justement, à cause de cette confession antécédente, et donc, la personne peut recevoir plus de grâce. Donc, l'effet de ce sacrement n'est pas seulement l'obtention de la grâce habituelle ou de la charité, mais aussi une certaine réflexion actuelle de douceur spirituelle. Or, celle-ci est empêchée, si quelqu'un s'approche de ce sacrement, qu'une âme distraite par les péchés véniels. Donc, je reprends ce texte. Les péchés véniels n'empêchent pas totalement, mais partiellement l'effet du sacrement. Car l'effet de ce sacrement n'est pas seulement l'obtention de la grâce ou de la charité, mais aussi une certaine réflexion actuelle de la douceur spirituelle. Alors celle-ci est empêchée si quelqu'un s'approche de ce sacrement qu'une âme distraite par les péchés véniels. Mais cela n'empêche pas l'accroissement de la grâce habituelle ou de la charité. Donc, la Sainte Communion va augmenter dans une âme la grâce sanctifiante qui est supposée déjà exister dans cette âme avant la réception de la Sainte Eucharistie. Passons à la question 80. L'usage ou la mendication de ce sacrement en général. Donc, saint Thomas se pose la question suivante. Doit-on distinguer deux manières de manger le corps du Christ, spirituellement et sacramentellement? Voilà ce qu'il répond. Nous disons qu'il y a deux manières de manger, l'une sacramentelle, l'autre spirituelle. Il m'a expliqué. Dans la mendication de ce sacrement, deux choses sont à considérer, le sacrement lui-même et son effet, c'est-à-dire ses conséquences en nous. La manière parfaite donc de manger ce sacrement est celle où on le reçoit de telle façon qu'on perçoit son effet. Il arrive parfois qu'on soit empêché de percevoir l'effet de ce sacrement. Cette manière de le manger est imparfaite. Ça arrive régulièrement. Les gens communient, mais sont un peu en désolation avant de communier. Ils ont l'impression qu'ils ne ressentent rien. Monsieur l'abbé, j'ai rien senti. Ça ne fait rien. Votre âme a quand même été nourrie si vous tient un tas de grâce. Puisque la différence entre le parfait et l'imparfait est un principe de division, la mendication sacramentelle par laquelle on consomme le sacrement sans obtenir son effet est distinguée par opposition de la mendication spirituelle par laquelle on perçoit l'effet de ce sacrement, lequel unit spirituellement au Christ par la foi et la charité. Vous voyez que toutes ces distinctions sont quand même importantes. Il compare avec le baptême de Saint Jean-Baptiste. Certains sont baptisés du baptême d'esprit à cause de leur désir de baptême avant d'être exposés au baptême d'eau. De même, certains mangent spirituellement ce sacrement avant de consommer sacramentellement, ceux qui se font par exemple une communion spirituelle. Beaucoup de gens, par exemple au début de la messe, font une communion spirituelle et vont pouvoir passer à la communion sacramentelle qu'à la fin de la messe, au moment de la communion. Manger spirituellement ce sacrement convient-il seulement à l'homme? Donc c'est la question 80, article 2. Bon. En fait, la question qui se pose, c'est est-il possible pour un ange de communier? Donc il n'appartient pas aux anges de communier spirituellement à la Sainte Eucharistie. Donc s'il est vrai, dit saint Thomas, que les anges mangent spirituellement le Christ, il ne leur convient pas de manger spirituellement ce sacrement. Donc, quand on fait une communion spirituelle, on se prépare à la communion réelle, mais ce n'est pas la même chose, parce qu'on n'a pas reçu notre Seigneur Jésus-Christ de la même façon. Faire attention parce qu'on est très influencé par le protestantisme. Les protestants mélangeaient tout là-dedans et disaient par exemple que notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans l'évangile lorsqu'on lit l'évangile à la congrégation, ce qui est vrai. Mais ce n'est pas du tout pareil de parler de la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ pendant la lecture du Saint-Évangile et la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ quand on le reçoit sacramentellement par la Sainte Eucharistie. Ce n'est pas la même chose. Bien distinguer les choses. Donc, il se pose la question de savoir, ensuite, l'article 3, est-il réservé à l'homme juste de manger le Christ sacramentellement ? Ça veut donc dire, est-ce qu'une personne qui vit un tas de péchés mortels pourrait recevoir le Christ sacramentellement ? Donc, le pécheur, dit saint Thomas, est plus abominable à Dieu que la créature privée de raison. L'homme est habillé dans les honneurs, a manqué d'intelligence, il a été mis au rang des bêtes sans raison, il leur est devenu semblable. Ça, c'est l'âme en état de péché mortel. Donc, le pécheur peut lui aussi manger sacramentalement le corps de Christ, et ce n'est pas réservé aux justes, à condition, bien sûr, que le pécheur ait fait et produit un acte de contrition, au moins parfait, par la réception de la sainte confession. Donc la mendication spirituelle ne convient pas au pécheur. Quelqu'un qui est en train de péché mortel ne peut pas communier, il faut qu'il attende de se confesser au plus tôt. Et s'il n'a pas le temps de se confesser avant la messe, parce que le prêtre ne reste pas suffisamment longtemps en confessionnal, ce qui est le cas dans beaucoup de paroisses malheureusement, le prêtre ne peut pas rester pendant toute la messe, il faut qu'il ait célébré la messe, et donc il n'y a plus personne au confessionnal pendant le saint sacrifice de la messe, saint sacrifice lui-même. Donc attention à ça, si vous ne pouvez pas communier en état de péché, en état de grâce, parce que vous êtes en état de péché mortel, vous ne communiez pas, même si vous avez, surtout si vous n'avez pas pu vous confesser. Si vous avez pu vous confesser, recevoir l'absolution, regretter bien le péché, là, les choses sont différentes. À ce moment-là, vous pouvez communier, bien entendu. Article 4, le pécheur commet-il un nouveau péché en mangeant sacramentalement le corps du Christ ? Et donc il va citer saint Paul, toujours la même citation, très connue, « Celui qui mange et qui boit indignement le corps et le sang du Christ mange et boit son propre jugement. » C'est-à-dire qu'il mange et boit sa propre condamnation. Il mange et boit indignement celui qui est dans le péché ou qui traite le sacrement avec irrévérence. Donc, celui qui est dans le péché mortel, s'il reçoit ce sacrement, acquiert sa condamnation en commettant un nouveau péché mortel. Il est coupable d'un péché de communion sacrilège, qui est certainement un des péchés les plus graves qui se puissent commettre. Donc, quiconque, conclut saint Thomas, mange ce sacrement avec un péché mortel sur la conscience, commet une fausseté dans ce sacrement. Il encourt donc le sacrilège comme violant le sacrement. C'est pour cela qu'il commet un nouveau péché mortel, encore plus grave que les autres. S'approcher de ce sacrement lorsqu'on a conscience d'un péché est-il le plus grave de tous les péchés ? Donc ici de Saint Jérôme d'abord, qu'as-tu à faire avec les femmes, toi qui à l'autel converses avec Dieu par le prêtre ? Dis-moi prêtre, dis-moi clair, comment baises-tu le Fils de Dieu avec les mêmes lèvres dont tu as baisé les lèvres de la prostituée ? Ô Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Alors saint Thomas ensuite a donné son explication, la thèse de saint Thomas, dans le 7 contre 1, le péché n'est pas, ce péché-là n'est pas le plus grave de tous, mais c'est plutôt le péché d'infidélité. L'idolâtrie en tant que telle, l'infidélité, est en soi encore plus grave que la communion sacrilège. Les péchés les plus graves sont ceux que l'on commet contre la divinité elle-même, comme le péché d'infidélité, le péché de blasphème. Tout dépend beaucoup de l'intention de la personne aussi. Par accident, un péché est plus grave qu'un autre. Un péché plus grave qu'un autre du côté de celui qui pèche. Ce péché est plus grave que beaucoup d'autres objectivement, en raison de son espèce, mais n'est pas le plus grave de tous. Encore une fois, le plus grave de tous les péchés, d'après saint Thomas d'Aquin, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Alors, on avance. L'obstacle dit saint Thomas dans le même article, le passage qui s'oppose à la charité en elle-même a plus de poids que celui qui entrave sa ferveur. C'est pourquoi le péché d'infidélité qui sépare radicalement l'homme de l'unité de l'Église, à parler dans l'absolu, rend l'homme tout à fait incapable de recevoir ce sacrement qui est le sacrement de l'unité ecclésiastique. Littéralement, il est en dehors de la communion avec l'Église, excommunié, au sens large du terme. Par conséquent, l'infidèle en recevant ce sacrement pêche plus gravement que le fidèle pécheur. Il méprise davantage le Christ en tant qu'il est dans ce sacrement, surtout s'il ne croit pas que le Christ y est vraiment. Car autant qu'il dépend de lui, diminue la sainteté de ce sacrement ainsi que la vertu du Christ qui opère dans ce sacrement, ce qui est méprisé précisément le sacrement en lui-même. Voilà pourquoi, mes chers frères, il faut faire attention à bien marquer tous les actes de révérence et de respect extérieur que la Sainte Église a placé autour de la Sainte Eucharistie. Je dis souvent aux enfants et aux parents de faire très attention, par exemple, à expliquer à leurs enfants comment faire un beau signe de croix, par exemple. Comment faire une belle génuflexion. On voit par la façon dont on fait son signe de croix en rentrant dans l'église, par sa façon dont on fait sa génuflexion avant de communier, par exemple, on voit le degré de foi qu'on a. Attention à ça. Donc, c'est une belle phrase de saint Thomas. Quand vous communiez en état de péché, autant qu'il dépend de vous, vous diminuez la sainteté de ce sacrement, ainsi que la vertu du Christ qui opère dans ce sacrement, ce qui est à mépriser précisément le sacrement lui-même. Article 6. Doit-on repousser le pécheur qui vient à ce sacrement ? Là, il y a des distinctions qu'il va falloir faire, évidemment. Si c'est en privé ou en public. Je vous rappelle les règles que j'ai déjà expliquées plusieurs fois dans le traité sur les sacrements en général et les cours de catéchisme que j'ai donnés il y a longtemps sur le sacrement. Revenez-y si c'est nécessaire. Mais je rappelle qu'un prêtre est lié totalement par le secret de confession. Donc, s'il a connaissance de l'état de péché mortel de la personne qui lui demande la confession, qui lui demande la communion, pardon, imaginez une personne qui est en état de péché mortel qui demande le sacrement de communion à un prêtre en privé. Et le prêtre ne sait que cette personne est en état de péché mortel que par la confession. Prenons un cas tout simple. Imaginez un prêtre qui refuse l'absolution à quelqu'un, qui se confesse à lui, personne ne demande à se confesser, se confesse au prêtre, et ce prêtre découvre que cette personne vit dans le concubinage et ne veut pas en sortir. Donc le prêtre, évidemment, logiquement, lui refuse l'absolution. Monsieur, vous ne pouvez pas, quand vous confessez, vous ne pouvez pas communier. Tant que vous êtes dans cet état-là, il faut d'abord sortir de l'état de concubinage. La personne refuse, donc le prêtre lui refuse l'absolution. Le prêtre, à ce moment-là, quitte le confessionnal parce qu'il n'y a pas d'autre pénitent. Il sort du lieu où il y a le confessionnal. Et la personne qui vient de confesser, à qui il vient de refuser l'absolution, lui demande la communion. Eh bien, le prêtre étant tenu par un secret absolu de confession, secret de la confession, ne peut pas le lui refuser, parce que s'il lui refuse la communion, il utilise une connaissance qu'il a par le secret de confession, ce serait un épouvantable sacrilège, et surtout sanctionné par une peine d'excommunication réservée au pape. Attention. Bon, le prêtre pourrait éventuellement, avec beaucoup de prudence, dire à la personne, s'il est seul avec lui, excusez-moi, est-ce que je peux parler avec vous de votre confession, s'il vous plaît ? Si l'autre lui dit oui, à ce moment-là, il peut lui dire, écoutez, je viens de vous refuser l'absolution, vous ne pouvez pas communier. Non. Mais, encore une fois, si la connaissance ne vient que du secret de confession, le prêtre ne peut jamais utiliser cette connaissance pour refuser, même en privé, la communion à un pécheur qui le lui demande. Il faut bien distinguer ces choses-là. Si, par contre, la connaissance que le prêtre a de l'état de péché dans lequel vit son pénitent et ne vient pas à la confession. Par exemple, toute la paroisse sait que monsieur X, qui vit dans le concubinage, il vient néanmoins à la messe tous les dimanches, mais il vit dans le concubinage. Tout le monde le sait dans la paroisse. Cette personne, en privé ou en public, demande la communion. Soit parce que cette personne arrive au banc de communion le dimanche et se met au banc de communion comme tout le monde pour communier comme tout le monde. Et toute la paroisse sait que cette personne est en état de péché mortel. Parce qu'il vit en concubinage. Le prêtre n'a pas le droit de lui donner la communion, ni en privé, ni en public. Pourquoi ? Parce que ce serait une participation au péché d'autrui. On n'a pas le droit. On ne peut pas. Donc là, il doit sauter la personne si cette connaissance, la connaissance de ce péché d'adultère est connue dans toute la paroisse. Maintenant, troisième cas, si cette connaissance est relative, il n'y a que quelques personnes relativement discrètes qui sont au courant que ce monsieur vit dans le péché dans le concubinage, eh bien, en privé, il peut lui refuser la communion, mais pas en public, encore une fois, pour préserver la réputation, même fausse, de cette personne. Donc, voyons maintenant ce que dit saint Thomas. Question 80, article 6. Doit-on repousser le pécheur qui vient à ce sacrement, qui sollicite la communion? Voilà la réponse de saint Thomas. Au sujet des pécheurs, il faut distinguer. Les uns sont des pécheurs occultes, d'autres sont des pécheurs publics. Soit parce que le fait est évident, comme pour les usuriers et les brigands avérés, ou bien par suite d'un jugement ecclésiastique ou civil. Aux pécheurs publics, on ne doit pas, même s'ils le demandent, donner la Sainte Communion. C'est ce que je viens d'expliquer. Saint Cyprien écrit, « Dans votre charité, vous avez jugé bon de me consulter sur ce que je pense des comédiens et de ce magicien qui, installé chez vous, s'obstine encore dans ses pratiques infâmes. » Faut-il leur donner la Sainte Communion avec les autres chrétiens? Je pense qu'il ne convient ni à la majesté divine, ni à l'enseignement de l'Église, que la pureté et l'honneur de l'Église soient souillés par un contact aussi honteux et infâme. Dans le cas où j'ai devant moi un pécheur public, tout le monde le sait, tout le monde sait que cette personne vit en concubinage, je ne peux pas lui donner la communion en privé ou en public. Mais, dit saint Thomas, si au lieu d'être des pécheurs publics, ce sont des pécheurs occultes, on ne peut pas leur refuser la Sainte Communion s'ils la demandent, sous-entendu, en public. Puisque tout chrétien, du fait même qu'il a été baptisé, a été admis à la table du Seigneur, on ne peut le priver de son droit que pour un motif manifeste. Cependant, le prêtre qui a connaissance d'un crime peut avertir en secret le pécheur occulte ou avertir en public tous les fidèles d'une façon générale de ne pas s'approcher de la table du Seigneur avant s'être repenti, s'être réconcilié avec l'Église. Il ne peut pas donner de détails. Parce qu'il n'a jamais le droit, encore une fois, d'utiliser la connaissance qu'il a de l'état de péché de cette personne par la confession. Ce que je sais par la confession, dit saint Augustin, c'est encore moins, je le sais encore moins que si je ne le savais pas. Alors, dans certains cas, on ne peut pas punir publiquement les péchés occultes, il faut les laisser au jugement de Dieu. Ça arrive, malheureusement, de temps en temps, c'est même très pénible pour le prêtre, mais ça est arrivé. Je sais que j'ai refusé, par exemple, l'absolution à telle personne, pour une raison très grave, bien entendu, et j'ai eu un cas comme ça, je vais expliquer le cas, je peux l'expliquer sans donner de nom, bien entendu. Je connais une personne que je connaissais qui assiste à la messe, alors que cette personne n'est pas un fidèle régulier. Je connaissais cette personne, je savais que cette personne vivait dans le concubinage. Bon. Alors, je lui ai dit avant la messe, attention, vous pouvez assister à la messe, bien sûr, vous êtes le bienvenu ici, mais vous ne pouvez pas communier à cause de votre état. J'ai pris soin en plus pendant la messe, pendant le sermon de la messe, de faire un rappel sur la nécessité d'être en état de grâce pour communier, et que j'étais toujours à disposition des gens avant ou après la messe pour se communier. Je commence à distribuer la communion, et cette personne s'avance et s'agenouille au banc de communion. J'étais le seul dans la congrégation à savoir que cette personne était en état de péché mortel. Et j'ai dû lui donner la communion. Bon, j'étais pas content du tout, intérieurement, mais j'ai même pas eu le droit, si vous voulez, de lui marquer mon déplaisir, parce que je n'ai pas le droit de transformer un péché privé en un péché public. C'est pour ça que saint Thomas dit, dans les cas de ces péchés occultes, il faut les laisser au jugement du bon Dieu. Alors, un autre détail C'en est vraiment un, mais c'est un détail qui trouble beaucoup, surtout les jeunes hommes. La pollution nocturne empêche-t-elle de recevoir ce sacrement, ce qu'on appelle un rêve humide? Alors, je ne vais pas donner de détails, c'est pas nécessaire, mais par délicatesse, si cette pollution est involontaire, il n'y a pas de faute morale du tout, parce que cette pollution nocturne arrive automatiquement, puisqu'il y a production constante chez l'homme des gamètes sexuels. Donc, une pollution nocturne, si elle est involontaire, n'a pas été provoquée par des mauvaises pensées, des mauvais touchés, etc., il n'y a pas de faute, la personne peut bien sûr communier. Maintenant, si cette pollution nocturne est volontaire, elle a été provoquée parce que juste avant de vous coucher, de vous endormir, vous avez regardé un mauvais film à la télévision, vous avez eu des mauvaises pensées, là c'est autre chose, là vous êtes responsable. Et Saint Thomas d'Aquin explique bien donc que ce qui écarte nécessairement de la réception de ce sacrement, c'est uniquement le péché mortel. Bon. On peut rajouter aussi le jeûne eucharistique. Bon, quelqu'un se présente, voudrait communier, mais il se rend compte que ben, il n'y a que 2 heures et demie qui se sont passées depuis son petit déjeuner jusqu'au moment de la communion. Il ne peut pas communier. Il ne peut pas communier parce qu'il faut 3 heures avant la communion sans manger. Donc là, il ne peut pas communier. Mais en soi, le plus grave, c'est bien sûr le péché mortel. Le péché mortel interdit l'usage, la réception de ce sacrement d'amour. Ainsi donc, on peut rechercher selon la cause de la pollution si la pollution nocturne empêche nécessairement la réception du sacrement. Donc, attention, il y a parfois aussi des gens mariés qui me posent cette question. Monsieur l'abbé, est-ce que l'accomplissement de l'acte conjugal interdit la communion le lendemain? La réponse est non, pas du tout, parce que l'acte conjugal est licite, moral et bon entre deux époux. Parce que dit saint Thomas, l'acte de mariage, s'il est accompli sans péché, par exemple pour engendrer les enfants ou pour s'acquitter du devoir conjugal, n'interdit pas de recevoir le sacrement. Alors attention à ça, parce qu'il y a parfois j'ai connu des gens qui étaient déséquilibrés de ce côté-là, qui étaient tombés dans une espèce de rigorisme et qui enseignaient, oubi et torbi, qu'une personne, de personne mariée qui avait une relation sexuelle n'avait pas le droit de communier le lendemain. C'est faux, il n'y a aucun texte de l'Église sur le sujet. Pourquoi? Parce que l'acte conjugal entre deux époux est quelque chose de bon. C'est un moyen de sanctification entre deux époux. Sauf, bien sûr, si l'acte conjugal est commis de façon pécamineuse. C'est autre chose. Article 8. Ce sacrement peut-il être reçu? Doit-il être reçu seulement par ceux qui sont à jeun? Et c'est là la règle de l'Église qu'on appelle le jeûne eucharistique qui est nécessaire. Je vous rappelle les conditions de recevoir réception du sacrement de la Sainte Eucharistie. D'abord d'être en état de grâce, un sacrement des vivants, c'est le plus important, mais aussi d'avoir l'intention droite et d'avoir suivi les règles du jeûne eucharistique que je vous rappelle, elles sont connues. 3 heures avant la communion pour la nourriture solide et l'alcool, 1 heure avant la communion pour la nourriture liquide, café par exemple, le thé, le jus d'orange, etc., un verre de lait. Et l'eau, par contre, ne rompt pas le jeûne. Et vous avez bu un verre d'eau juste avant la messe, il n'y a pas 1 heure qui s'est passée entre le moment où vous avez bu votre verre d'eau et la réception de la communion, vous pouvez communier. Donc on ne peut prendre ce sacrement qu'après avoir pris de la nourriture ou de la boisson, par respect, pour honorer un si grand sacrement. Alors, il est évident que les règles du jeûne eucharistique ont été modifiées, elles ont été modifiées légitimement par le pape Pie XII, et qu'on a parfaitement le droit de les suivre. Avant, la communion demandait un jeûne naturel depuis minuit. Bon, il est évident que c'est certainement possible pour les messes du matin, mais pas du tout possible, la plupart du temps, pour les messes du soir. C'est évident que si vous avez une messe à 5 heures de l'après-midi, et que vous travaillez toute la journée, surtout ceux qui font des gros travaux physiques, le bon Dieu, l'Église ne vous demande pas de passer la journée depuis minuit jusqu'à 5 heures d'après-midi sans manger du tout, parce que vous voulez suivre la règle du jeûne eucharistique. naturelle depuis minuit. Bon, vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est quand même assez dangereux, surtout si ça vous risque de vous empêcher de faire votre devoir d'État. J'ai déjà cité cet exemple d'une personne que je connaissais, de mes chapelles, dont je me suis occupé pendant un temps, qui voulait absolument suivre les lois du jeûne eucharistique naturel depuis minuit, sans une goutte d'eau, par contre, en Australie, qui faisait une chaleur à crever en plein été, parfois 45 degrés dans la chapelle, parce qu'il n'y a pas d'air conditionné, cette personne ne refusait de boire avant la messe, ce que faisaient la plupart des gens pour arriver à tenir le coup pendant la messe sans boire. Pendant la messe elle-même, il buvait un verre d'eau avant la messe pour s'hydrater avant la messe tellement il faisait chaud. Cette personne ne voulait jamais le faire et résultat, un dimanche sur deux, s'évanouissait pendant la messe. Eh bien, ça en gênait tout le monde parce qu'il fallait s'en occuper et donner des baffes pour qu'elle ressuscite et pour pouvoir survivre pendant la messe. Alors, il y a des distinctions qui doivent être apportées. Saint Thomas le précise bien que les malades sont exemptés, exceptés de cette règle commune. Car il faut les communier sans tarder, même après le repas, si on les suppose en danger pour qu'ils ne meurent pas sans la communion, car nécessité n'a pas de loi. Le prêtre doit donc communier le malade sans tarder pour qu'il ne meure pas sans communion. Bon, c'est le cas, par exemple, pour les communions des malades. Et parfois des vieux malades, souvent j'ai fait plusieurs centaines de kilomètres pour donner la communion à quelqu'un, et les malades à l'hôpital ne font pas forcément ce qu'ils veulent. Ils viennent de manger. Bon, moi, je ne vais pas laisser ce malade sans communion, alors qu'il est à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi. Je ne vais pas pouvoir revenir peut-être avant plusieurs semaines, voire même un mois. Bon, et si cette personne, j'avais pas pu prévenir cette personne, ou cette personne avait oublié que je venais la communier, s'il y a un danger, surtout s'il y a un danger de mort, il vaut mieux qu'elle communie dans ces cas-là, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Hein, si on suppose ce danger. Hein. Donc, je vais arrêter là. Je n'ai pas le temps de terminer cette question 80. Nous terminerons, si Dieu veut, la prochaine fois. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.